D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. La fin du XIXe siècle, avec une certaine idéologie baudelairienne de l'amertume, renforcée par le volume de Verlaine « Les poètes maudits », nous infecte encore de l'idée que, en art, pour réussir, il faut avoir perdu. Que même, il faut avoir été un peu goujat, mal lavé et grincheux. En tout cas, que d'avoir été reconnu ou par la critique ou par le public entraîne un soupçon considérable sur la qualité d'une œuvre. Et c'est probablement le préjugé inverse d'un préjugé antérieur sur lequel nous avions vécu pendant des siècles et qui voulait que, si on avait été méconnu, on l'avait bien mérité et qu'on n'était pas un bon artiste. Au demeurant, je calomnie la fin du XIXe siècle, c'est au début que cela s'est produit, et même dès la Révolution française. Alfred de Vigny se plaint de ce préjugé nouveau dans son Journal d'un poète. Ce préjugé favorable à l'échec, pour le dire vite, s'est entre autres appliqué à la peinture. À cause du salon des refusés et des difficultés qu'ont rencontrées les impressionnistes, on a souvent déduit qu'il fallait avoir peiné socialement pour valoir quelque chose artistiquement. C'est au rebours de toute raison, et on pourrait mentionner quantité de peintres triomphaux et de talent comme Léonard de Vinci ou un peintre français à qui le musée du Louvre consacre une exposition rétrospective, la première depuis 1933, Hubert Robert. Le commissaire en est Guillaume Farou. Autre crime en plus de son succès, Hubert Robert était enjoué et sociable. Voici ce que dans ses mémoires, Elisabeth Vigée-Lebrun écrit de lui. « De tous les artistes que j'ai connus, Robert était le plus répandu dans le monde, que du reste il aimait beaucoup. Il avait de l'esprit naturel, beaucoup d'instruction, sans aucune pédanterie, et l'intarissable gaieté de son caractère le rendait l'homme le plus aimable qu'on pût voir en société. » Et cet homme aimable a eu un génie particulier que l'on peut admirer dans cette exposition, c'est que c'était un grand peintre de ruines. Quel est le secret professionnel d'Hubert Robert et de l'esthétique des ruines? Je reçois pour en parler Sarah Catala, historienne d'art qui a contribué au catalogue de l'exposition. Sarah Catala, je crois que Hubert Robert est né à Paris en 1733. Dans quel milieu familial? Est-ce que, comme Vigée-Lebrun que je viens de citer, son père était peintre?
Non, Hubert Robert commence sa carrière dans un milieu très favorable, celui du duc de Choiseul, qui est alors comte de Saint-Ville et qui va devenir l'équivalent du premier ministre de Louis XV. C'est comme ça qu'il débute sa carrière. Au départ, il doit être clerc, donc c'est quelqu'un qui est très éduqué, qui fait ses études au Collège de Navarre, l'actuel lycée Henri IV.
Que faisaient ses parents?
Ses parents étaient intendants, en fait. Son père était intendant du duc de Choiseul, ce qui est une place assez confortable. Qui le place immédiatement au sein de l'élite sans en faire partie. C'est quand même fantastique et il saura utiliser ses fils, on va dire, à la fois de sociabilité tout au long de sa carrière.
Et donc il est au Collège de Navarre, où a été plus tard d'ailleurs, ou peu de temps après, Voltaire, je crois.
Ses camarades s'appellent Jean Roucher, André Chénier, donc des poètes qu'il retrouvera malheureusement ensuite dans les prisons de la Terreur.
Et comment devient-il peintre ?
Il devient peintre certainement parce qu'il, selon les mémoires de l'époque et notamment les témoignages qu'on recueille, visiblement, il dessinerait, il passerait son temps à dessiner, mais là c'est une belle fable. Mais ses parents ont certainement dû l'encourager, notamment le duc de Choiseul, qui l'emmène avec lui lorsqu'il est nommé ambassadeur à Rome, ambassadeur auprès du Saint-Siège.
Et quel âge a eu Robert à ce moment-là?
Hubert Robert a environ 25 ans, ce qui est très tard en fait.
C'est très tard.
C'est très tard.
Mais donc après ses études au Collège de Navarre, j'imagine que ça a duré 6 ou 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un trou entre ça et Rome? Non.
Il n'y a quasiment pas de trou. Il passe quelques temps dans l'atelier d'un sculpteur qui est un peu oublié, qui s'appelle Slot, Michel-Ange Slot. Et ensuite, c'est vrai qu'il arrive à Rome. Et c'est pour ça en fait qu'il dessine autant à Rome, parce que justement, il n'a pas les rudiments de formation de peintre. Donc c'est pour ça que le passage à la peinture se fait lentement. Et au départ, ce sont vraiment des dessins. C'est un dessinateur au départ par le hasard et aussi parce que c'est plus simple d'aborder toute pratique artistique d'abord par le dessin, notamment au XVIIIe siècle. On ne fait que dessiner quand on apprend à être artiste.
Donc, quand on dit qu'il est à Rome, il ne faut pas penser qu'il est à l'Académie de France à Rome. J'imagine qu'il est à l'ambassade, en suivant Choiseul, qui est ambassadeur, c'est ça ?
Voilà, exactement. Il est logé chez l'ambassadeur, mais l'ambassadeur qui a vraiment le bras long, le fait évidemment rentrer à cette académie. En fait, il a juste une pension, et puis à force de travail et d'acharnement, il finit par obtenir une place, là, officielle, de pensionnaire à l'Académie de France à Rome, au Palais Mancini, et c'est alors qu'il côtoie Fragonard, Pajou, enfin des artistes qu'il va retrouver tout au long de sa carrière, et des artistes surtout très éminents. Et c'est certainement aux côtés de Fragonard qu'il aborde la peinture.
Mais quand même, Fragonard est un maître avant lui, si on peut dire.
Oui, Fragonard est un artiste exceptionnel. Il part en Italie, tout le monde sait qu'il va revenir auréolé de gloire. Il part déjà presque, les critiques ont déjà tressé ses lauriers depuis bien longtemps, en fait. Un élève de Boucher fabuleux.
Alors que Robert est considéré comme quoi, si on le sait, c'est un fils de famille un peu pistonné qui travaille pas trop et qui a une bonne recommandation à l'Académie de France.
C'est alors quoi, hein? Oui, c'est ça, sauf qu'en fait, il travaille beaucoup. Il travaille énormément et c'est cet acharnement de travail qui lui offre sa place véritablement. En fait, si vous voulez, c'est très amusant, mais quand il est nommé pensionnaire, quand il rentre en tant que pensionnaire, il tombe affreusement malade. C'est un moment aussi où sa signature apparaît, donc il y a une affirmation très forte de ce statut difficilement acquis, acquis à la force du travail.
Et il reste, vous avez dit, de nombreuses...
11 ans. 11 ans, de 1754 jusqu'à 1765.
Mais il ne reste pas 11 ans pensionnaire à la...
Exactement.
Ah si ?
Vous avez raison, il ne peut pas rester 11 ans, il n'y a que 3 ans légaux. Ensuite, il bénéficie d'un autre logement, celui du bailli de Breteuil, qui est un autre ambassadeur. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a d'excellents réseaux et qui les entretient très très bien, en fait. À Rome, c'est un milieu à la fois artistique et extrêmement diplomatique, où tous les amateurs, évidemment, viennent faire leur grand tour, viennent visiter en tant que touristes les plus beaux monuments de Rome. Et là, il fait des découvertes fantastiques, évidemment, des rencontres très importantes. Il commence à enseigner aussi le dessin parce qu'en fait, il est doué. Il a un sens du cadre, il aurait fait un photographe exceptionnel. Il a une manière d'aborder ce qu'il voit très, très frappante et très forte. Et c'est ce qu'apprécient ces aristocrates de passage qui lui achètent immédiatement en fait, ses œuvres déjà, ses dessins au départ.
Il avait un atelier là-bas, à Rome ?
Il a ce qu'on appelle un atelier, mais personnel, c'est-à-dire pas avec des gens qui l'aident à peindre. Il dispose juste d'un espace pour réaliser ses œuvres.
Et donc, il revient à Paris en quelle année à peu près ?
En 1765, il revient au moment où l'été, juste avant l'ouverture du salon auquel il ne participe pas, parce que pour y participer, il a besoin d'être agréé et reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture, ce qui arrive en 1766, sur présentation d'une œuvre qui est la copie de celle qu'il avait offerte au duc de Choiseul. Donc vous voyez, c'est déjà tout un art de jouer sur des modes, en fait.
C'est un Parisien de quel Paris ? Il vit dans quel quartier ?
Il vit près de Saint-Sulpice. Ensuite, il a beaucoup vécu à l'Arsenal où il a disposé d'un grand atelier. Donc, c'est pour ça qu'il avait une certaine familiarité avec la Bastille qu'il voyait souvent, en fait, en se rendant à cet atelier. Et puis, il a eu pendant à peu près 20 ans un logement au Louvre, comme beaucoup d'artistes méritants.
Et ça, c'était attribué comment ? Parce que nous avons l'idée que le Louvre, c'était un palais royal où de loger
ça. C'était surtout un lieu d'habitation, en fait. C'est un lieu où tous les artistes et l'aristocratie se retrouvaient. C'est-à-dire que les gens désertaient progressivement Versailles. Et c'était très efficace pour les artistes parce que leur clientèle vivait tout près d'eux. Il faut regarder les plans de Sébastien Mercier. C'est passionnant, les vieux plans de Paris où on voit ce qu'on connaît de la cour carrée remplie de petites baraques. Parce qu'il y avait aussi des couches sociales diverses au palais du Louvre.
Et est-ce que ça veut dire qu'il a, en obtenant cet atelier et ce logement au Louvre, est-ce qu'il a une position excessivement favorisée ou beaucoup d'autres artistes parisiens ont des logements et des ateliers ?
Non, il a une position excessivement privilégiée. En fait, il est un peu l'homme de seconde main de d'Angevilliers. Si vous voulez, il y a l'homme officiel. Le premier peintre du roi, qui est Jean-Baptiste Marie-Pierre, qui est un artiste qu'on oublie un peu à tort, certainement. Et Hubert Robert, en fait, est un peu l'homme de main de d'Angevilliers, puisqu'il le nomme en 77 officieusement et les brevets passent en 78, à la fois dessinateur des jardins du roi, donc avec une partie pour s'occuper de la la revalorisation des parcs royaux et puis à la fois conservateur au musée du Louvre, alors qu'il a son activité de peintre. Donc tout ça est lié en fait à l'ouverture au public et à la présentation à la fois des collections et des domaines royaux en fait. Donc c'est une position très avantageuse qu'on découvre à peine en fait, dont on se rappelle à peine maintenant.
Sarah Catala, vous venez d'employer un mot important, là, vous venez d'employer le mot d'architecte, et ce qui est intéressant, je crois, ou en tout cas à souligner pour Hubert Robert, c'est qu'on a l'impression qu'il avait tous les talents, c'est-à-dire il est peintre, mais je crois que ça c'est assez rare, il est peintre, il est architecte, il est décorateur, dites-nous ce qu'il fait à la laiterie de Rambouillet par exemple.
Oui, voilà, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué et comme il n'a pas fait sa formation de manière très académique, il est très, très décomplexé certainement. Et c'est vrai qu'il est reçu peintre d'architecture, donc de représentation d'architecture. Il fait des œuvres immenses pour des grands décors que peu arrivent à faire, à part des gens comme Vernet certainement. Et à la laiterie de Rambouillet, on lui propose un projet dont il n'a jamais eu les compétences. Donc, il supervise en fait tout le monde.
Qu'est-ce que c'était d'ailleurs de la laiterie de Rambouillet ?
La laiterie de Rambouillet, c'était une opération de séduction pour Marie-Antoinette. Il fallait que Louis XVI aille chasser, donc il fallait venir faire venir Marie-Antoinette. Et il lui fait créer cette architecture complètement folle, tout en marbre. C'est excessivement coûteux pour l'époque, c'est en marbre, c'est en bois d'ébène et d'acajou, et donc vous avez un espace qui est entièrement dédié au lait. C'est le principe aussi des manufactures du XVIIIe siècle. Alors évidemment c'est très coquin, vous avez des bols sains, etc. Et donc c'est un espace qui mêle à la fois un bel espace à l'antique en entrant, et puis progressivement vous passez dans une seconde allée et au fond vous avez une grotte artificielle. Et là le travail d'Hubert Robert, c'est d'avoir toutes ces idées et certainement de les dire oralement, et il confie évidemment les tâches à d'autres artistes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il les confie souvent à des jeunes artistes, et certainement c'est quelqu'un qui a le sens de la passation, de la transmission, et aussi d'aider les jeunes artistes.
Il a quel âge lui à ce moment-là, à peu près ?
Ouh là là, il a déjà presque 50 ans, d'accord. Entre 50 et 60, oui.
Qu'est-ce que c'est que le bol sain ? Parce qu'il était aussi céramiste, enfin, si on peut dire ça comme ça.
Alors ça, certainement, c'est plus de l'ordre de la collaboration. En effet, comme quand on supervise un projet, il ne peut pas avoir toute l'expertise. Alors certes, il a dessiné les projets du mobilier que le célèbre ébéniste Jacob a réalisé. Pour les bols saints, c'est la manufacture de Sèvres qui le réalise.
C'est un bol.
C'est un bol qui a la forme d'un saint, qui a la couleur de la chair. Et c'est évidemment, c'est la version en céramique pour Marie-Antoinette, sachant que Madame de Pompadour, grande figure aussi féminine du XVIIIe siècle, avait sa coupe de champagne dans la forme de son saint. Donc vous avez, c'est tout un jeu à la fois de personnalité et en même temps de liens des manufactures, de mise en valeur de l'industrie aussi française.
Il a fait aussi les décors de l'hôtel de Beaumarchais, il a travaillé avec Beaumarchais l'écrivain, en face de la Bastille, donc dans son quartier.
Oui, oui, alors ça c'est incroyable parce que c'est en 92 cette commande, et c'est vrai que le jardin de Beaumarchais bute contre la Bastille, alors c'est vraiment, c'est son dernier grand décor immense, puisque l'année suivante il est emprisonné à Saint-Lazare et Sainte-Pélagie.
Pourquoi il est emprisonné ?
Alors, il est déclaré suspect pour ses relations, évidemment, avec l'aristocratie, comme beaucoup d'artistes.
Mais il n'avait pas émigré, néanmoins.
Il n'avait pas émigré, non, non. Beaucoup de ses amis, notamment Vigée Lebrun, et de ses clients ont émigré. Lui, non. C'est-à-dire qu'il est arrêté. En général, vous êtes arrêté le jour même, vous êtes enfermé. Hubert Robert, il faut 3 semaines avant qu'il soit enfermé. Donc,
Ça veut dire quoi, qu'il avait des relations et qu'il a...
Ça veut dire qu'il avait des protections dont on n'arrive pas encore à tirer toutes les ficelles pour les comprendre. Et d'autre part, qu'il se sentait pas inquiété.
Donc... Il était franc-maçon ? Ça a beaucoup compté à la Révolution. Ah ben voilà, peut-être une des causes de protection. Il passe assez longtemps en prison, non ?
Il y passe 9 mois. Il y passe 9 mois, ce qui est long pendant la Terreur, ce qui est très long. Et c'est vraiment la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, qui lui sauve la tête.
Il aurait pu être décapité.
Oui, si vous voulez, tous ses clients et amis de cellules le sont progressivement. Il partage des cellules à plusieurs, et notamment son principal mécène, sponsor, qui est le marquis de Laborde, qui est une personnalité très importante au XVIIIe siècle, pour qui il a dessiné les jardins de Méréville, en collaboration avec l'architecte Bélanger. Tous se font décapiter à quelques jours près, à une semaine près d'ailleurs, de la chute de Robespierre. Donc il n'y a aucune raison qu'Hubert Robert n'ait pas subi ce sort.
Et alors, lui qui est mort en 1808, qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de la Révolution et l'Empire? Est-ce qu'il a continué à peindre? Il a eu des clients? Ou il a perdu toute popularité?
Alors, on peut dire très honnêtement que tout s'est bien passé pour lui. Il a eu une chance formidable, c'est qu'il a été très apprécié par les Russes. Et les Russes l'ont soutenu après la Révolution. Notamment le comte Stroganov, qui était une personnalité éminente auprès de la cour de Catherine la Grande. Et ce Stroganov a des nièces et des neveux qui sont eux-mêmes extrêmement riches et qui, de passage à Paris, prennent des cours avec Hubert Aubert, achètent des peintures, etc. Donc il en tire sa principale source de financement.
Nous allons maintenant entendre une chanson sur les ruines, une étonnante chanson sur les ruines, car elle est presque guillerette et n'en est peut-être que plus tragique. C'est « In the Ruins of Berlin », dans les ruines de Berlin, chantée par Marlène Dietrich, berlinoise qui avait renié son pays pour le sauver quand il était la proie de Hitler. C'est la chanson du très bon film de Billy Wilder, « La scandaleuse de Berlin » de 1948.
Amid the ruins of Berlin, trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night, you feel in all your sorrow a perfume as of a sweet tomorrow. That when you realize at last, they won't return, the phantoms of the past. The brand new spring is to begin out of the ruins of in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Dans les ruines de Berlin, les arbres en fleurs parfument ton chemin. In der Radfalina Berlina, Natschnatschanova, die Blumen wieder an zu blühen und in der Nacht spürst du von allen Seiten.
Sarah Catala, le génie d'Hubert Robert, à mon sens, mais à celui de beaucoup, ce sont, parmi tous les talents que nous avons évoqués dans la première partie d'émission, ces peintures de ruines. C'est là, je crois, qu'il développe son imagination, car souvent il les invente. Est-ce qu'il a eu des maîtres? Évidemment, il a eu des prédécesseurs, mais est-ce qu'il a eu des maîtres en la matière?
Oui, il a eu un maître essentiellement, Jean-Paul Panini, qui était son professeur de perspective à Rome et qui était à l'Académie et qui était vraiment connu pour ses caprices architecturaux, notamment des rassemblements de ruines en un seul espace, alors que dans la réalité, elles peuvent être éloignées de plusieurs kilomètres.
Ce Jean-Paul Panini, c'est un Français ou c'est un Italien?
C'est Giovanni Paolo Panini, c'est évidemment un Italien et qui a des liens très forts avec Venise, comme un autre artiste qui a beaucoup inspiré Hubert Aubert, qui s'appelle le graveur Piranèse, qui est vraiment... Donc ce sont deux influences très fortes avec deux manières d'aborder la ruine extrêmement différentes. Un, c'est vraiment la peinture, et l'autre, c'est vraiment la gravure. Donc Panini, c'est la peinture, Piranèse, c'est la gravure. Chez Piranèse, c'est le sens du cadre, les décentrements, les choses un peu étranges qui vont l'intéresser, des perspectives qui fuient et on ne sait pas où elles nous mènent, etc. Et chez Panini, ça va être un sens de la ruine qui n'est plus dispersé dans un paysage au sein d'un sujet historique comme Alexandre découvre ouvrant le tombeau d'Achille. C'est une ruine qui d'un coup est au premier plan du tableau et le sujet unique du tableau, et c'est une ruine qui est, on va dire, réflexive. C'est ça qu'apprécie énormément Diderot. C'est-à-dire que de la vision de cette ruine, vous tirez vous-même un propre discours qui se fait en fonction de votre sensibilité. C'est vraiment les pages complètement folles de Diderot, enfin pas folles, hein, vraiment passionnantes, de Diderot sur ce qu'il appelle la poétique des ruines.
Oui, dans le salon de 67.
Dans le salon de 67, qui est capital en fait. C'est un salon capital. Il y a la poétique des ruines, Chine. Il y a cette esthétique de l'esquisse qu'il perçoit chez Hubert Robert, et les deux sont extrêmement liés. C'est-à-dire que en ayant une facture, une manière de peindre indéterminée, très esquissée, vous laissez libre cours à votre imagination, parce que vous ne pouvez pas précisément, on ne vous mâche pas le travail. Vous êtes obligé d'aller dans les recoins, d'aller chercher qu'est-ce qui se passe, etc. On laisse libre cours à votre imagination, y compris dans les ruines d'Hubert Robert. Et c'est très intéressant puisque les personnages même ne font pas attention aux spectateurs. On ne vous prête pas attention, personne ne vous regarde. Chacun va qu'à ses petites occupations. La lavandière s'occupe de son enfant tout en lavant son linge. Vous avez des personnages vêtus de toge en même temps qui côtoient ces... Donc vous avez différentes temporalités. C'est vraiment... Je pense que même aujourd'hui, ça parle encore ce principe.
Est-ce que vous diriez que c'est... Puisque vous nous avez expliqué que ces peintures de ruines avaient commencé avant Hubert Robert, est-ce que c'est lui qui les a mises à la mode ou est-ce que déjà avant lui c'était une mode qui n'a fait que suivre ?
En fait, ce Panini était vraiment très à la mode. En France, Hubert Robert a vraiment poussé la mode à son maximum. Et puis, cette mode de la ruine, il l'a fait passer du tableau au jardin, en fait. C'est ça aussi. Quand il a Rambouillet, il met cette chute de rochers dans la laiterie. Quand il a Méréville, il fait demander à construire une pyramide en ruine, des ponts en ruine. Donc, c'est une esthétique qu'il développe qui fait vraiment sortir de son cadre. Et évidemment, là où il se distingue de tous ses aînés, c'est l'anticipation de la ruine, en fait. C'est ce sur quoi se termine l'exposition du Louvre actuellement et qui est un des tableaux le plus connus, c'est la représentation du Louvre en ruine. C'est-à-dire que pour la première fois, on imagine ce que peut être un monument en ruine.
Hubert Robert comme inventeur de l'arte povera.
Ouais, certainement, mais c'est vrai que c'est vraiment c'est son truc à lui, cette anticipation qui est vraiment dans l'air du temps aussi. Hein,
Et ça, c'était acheté, donc c'était, je présume que s'il le peignait, c'était aussi son métier, c'était pour vendre, et ça veut dire que c'était à la mode et que c'était acheté.
Oui, c'était à la mode. Alors là, c'est au Louvre. Alors ça, c'est un immense projet à ce moment-là, que l'ouverture au public des collections du Louvre. Et si vous voulez...
Pardonnez-moi, ça fait deux fois que vous nous dites ça. Non, pardonnez-moi, je vous interromps. Il faut expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, l'ouverture des collections, parce que tout le monde ne sait peut-être pas que les...
C'est vrai. Le projet est vieux. Il date de les années 70, d'ouvrir les collections du
1770.
Roi à ce moment-là, absolument, d'ouvrir ses collections royales au public. La Révolution s'empare de ce projet aussi. Et puis donc, ça devient le muséum central. Et puis, au fil des années, ce lieu garde le nom du Louvre. Donc, c'est un vieux projet auquel Hubert Robert a été associé dès les débuts. Donc, pour lui, c'est un moment très important. Donc, il a fait de nombreuses vues du Louvre en projetant lui-même sa propre expérience au sein des collections publiques romaines. Notamment, qu'est-ce qu'on fait ? On peut les voir. On s'instruit et on peut aussi dessiner d'après les maîtres ou d'après l'Antiquité. Donc aiguiser, accentuer, progresser grâce au meilleur goût possible. Et c'est ça que va être le Louvre. Et représenter, anticiper la ruine du Louvre, c'est vraiment anticiper la splendeur, le rayonnement de Paris et de ce lieu qui est passé du roi à la nation.
Alors, vous parliez du salon de 1767 de Diderot, où il a employé pour la première fois cette expression de poétique des ruines. Je voudrais citer une phrase de lui qui est assez belle, je trouve, qui est à propos des tableaux d'Hubert Robert. « Tout est anéanti, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure, il n'y a que le temps qui dure. » Et en même temps, dans le même salon, Diderot critique les figures pittoresques qui sont dans les tableaux et que vous veniez de citer. Pour lui, par moments, ces petits personnages dans les ruines, ça encombre la solennité des ruines. On reconnaît d'ailleurs là bien Diderot, qui était à la fois un homme très intelligent, mais très moral. Il fallait qu'une chose soit une chose et pas deux avec lui.
Oui, c'est, vous avez complètement raison. Le passage choisi est un des plus merveilleux qu'on ait pu écrire sur Hubert Robert. Et c'est vrai que Diderot, bon, Hubert Robert, comme je vous l'ai dit, avec sa formation, c'est pas quelqu'un qui est très à l'aise avec la figure humaine aussi. Donc, ce sont pas les plus beaux personnages que l'on peut voir. Et donc, ils sont d'autant plus encombrants qu'ils perturbent le moment de recueillement que Diderot souhaiterait avoir devant les ruines d'Hubert Robert. Donc, en fait, au fil des salons suivants, Diderot sera constamment déçu par Hubert Robert parce que il ne suivra jamais cette idée d'un sentimentalisme des ruines. Chez Hubert Robert, il n'y a pas de sentimentalisme, en fait. Vous êtes devant une ruine qui a sa propre autonomie. Et comme je vous disais tout à l'heure, le spectateur est en dehors de ça. Donc, c'est à vous de vous inclure en faisant jouer votre imagination, mais vous n'êtes pas là pour méditer sur la mort, en fait. Bien sûr que il y a la notion de temps qui passe, d'espace aussi. Mais Hubert Robert, c'est une ruine qui s'inscrit au présent, enfin une ruine du passé pour comprendre le présent et projeter sur le futur. Donc en fait, vous avez quelque chose sur le passage du temps, mais moins sur la méditation de la mort qu'il connaissait parfaitement. Et ils ont tous en tête, en fait, Poussin, Nicolas Poussin et Les Bergers d'Arcadie. C'est une œuvre tellement forte qu'Hubert Robert copie et que tous les intellectuels connaissent Diderot en tête. Mais c'est vrai que Diderot s'inscrit plus dans ce registre-là, dans celui du sublime, en fait.
Bah, Diderot, avec toutes ses qualités, c'est qu'il fait ce que font bien souvent des critiques, c'est-à-dire on vous donne un tableau avec une orange et il dit pourquoi vous n'avez pas fait une pomme. Hubert Robert fait les ruines comme il est. En fait, c'est le point de vue, je crois, très moralisateur de Diderot, qui a encore une fois beaucoup de qualités, mais enfin, il a un point de vue moralisateur. Est-ce que vous ne voudriez pas ça sur la peinture? C'est-à-dire que, et évidemment, comme tous les moralisateurs, il ne comprend pas la vie. Moi, ce que je trouve frappant dans les ruines de Robert, c'est précisément ces personnages. C'est que ce sont des ruines, mais il y a une femme et un homme. Là, par exemple, dans le portique d'Octavie servant de marché aux poissons, qui est un tableau de 85 que vous montrer au Louvre, on voit un homme et une femme qui portent un grand poisson, un chien qui aboie, une femme qui soulève un bac d'eau, des enfants regardent. C'est la vie. Et le principe d'Hubert Robert, c'est pas de montrer la ruine, c'est de montrer la vie, non?
Oui, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui, de toute façon, son caractère s'inscrit, s'imprime dans ses représentations. Et évidemment, il représente toutes les couches de la société. Vous pouvez voir plein de petits métiers dans les œuvres d'Hubert Robert, avec toujours un peu d'humour. Le fameux pendant d'Octavie, c'est une représentation de la statue de Marc Aurèle où des lingères ont accroché au bout du bras leur drap et l'ont accroché sur une belle balustrade juste en face. Donc c'est aussi une manière de s'approprier les ruines, parce que les Romains vivaient comme ça, en fait. Les ruines, elles n'étaient pas encore sacrées et protégées. Ça arrive à la fin du XVIIIe siècle, notamment en France. Mais c'est cette idée de vivre au milieu des ruines et de faire... C'est vrai que chez Hubert Robert, c'est la vie qui l'emporte.
Sarah Catala, pour finir, vous venez de parler de Marc Aurèle. Il y a un autre tableau dans votre exposition au Louvre, ou dans l'exposition du Louvre, qui est l'ancien portique de Marc Aurèle, qui est un tableau de 1784. Et une chose qui m'a frappé, c'est que ce portique de Marc Aurèle, en ruine, si bien peint, eh bien, il n'existe pas. Et Hubert Robert l'a inventé. Est-ce que vous ne diriez pas que le secret professionnel d'Hubert Robert, en tout cas relativement aux ruines, c'est qu'en fait, c'est un peintre qui est un romancier?
Ah oui, c'est fantastique. Oui, c'est vraiment ça. C'est ça. C'est-à-dire que quand il voit quelque chose, il va le déformer. Vous allez le reconnaître, mais c'est pas vraiment le lieu réel. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à la réalité qu'il voit. Donc, Hubert Robert, c'est un artiste de l'imagination. Il vous raconte des histoires constamment. Alors, s'il faut en passer par l'invention d'un monument, il le fera sans hésiter.
C'était Secret Professionnel, le 216e. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Jean-Richard Dufour, recherche INA Joseph Sarriérin. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.